bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Au menu ce soir, la corruption au Burkina Faso, un lien profond avec le terrorisme exploré par le réseau national de lutte anti-corruption. L'OMS au Tchad s'inquiète de la santé des réfugiés soudanais et des retournés tchadiens dans l'est du pays face à des risques sanitaires en hausse. À découvrir dans cette édition, le Toguna de Dogon, le cœur de la culture et de la justice coutumière servant de lieu de rencontre des sages à Bandiagara au plateau Dogon au Mali. Au Burkina Faso, l'ancien boulevard Charles de Gaulle est rebaptisé du nom de Thomas Sankara. En guise de reconnaissance au père de la révolution burkinabé, c'est dans notre fait marquant de la semaine. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Depuis 2016, le Burkina est en proie au terrorisme, caractérisé par des attaques meurtrières et des déplacements massifs de population. Des études pointent vers diverses causes, parmi lesquelles la corruption est considérée comme l'une des plus préoccupantes. De nombreux Burkinabés, y compris l'organisation de la société civile RONLAC, Réseau National de Lutte Anti-Corruption, estime que la lutte contre ce fléau aurait un impact significatif dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce reportage de notre correspondant Gilles Dasda, vous découvrez le lien entre la corruption et le terrorisme au Sahel. Suivez.
Des citernes portées disparues, interceptées par des groupes armés terroristes sur plusieurs axes routiers du Burkina. Des années durant, ces faits se sont répétés, puis en 2021, une sombre affaire de contrebande de carburant va marquer l'opinion publique, avec à la clé une quarantaine de personnes condamnées pour contrebande aggravée et mise en danger d'autrui. Et des cas de corruption comme celui-là, le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC en dénonce à la perle chaque année. Pour la structure dirigée par Sagado Nakanabo, le lien entre corruption et terrorisme est clair.
Ces gens qui sont dans les bourses là sont largement alimentés par un trafic de carburant. Et pendant cette période de lutte contre l'insécurité, il va sans dire que si on regarde la quantité d'armes qu'il y a dans nos brousses et nos forêts aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'il y a un important trafic d'armes. Et si on ne peut pas empêcher ce trafic d'armes-là, il va sans dire qu'on ne peut pas empêcher le terrorisme, puisque sans les armes, le terrorisme s'arrêterait même d'un coup.
Loin de s'arrêter, les attaques terroristes se poursuivent au Burkina. Et d'étonnants cas de corruption sont révélés par la presse. Parmi les plus emblématiques, il y a le dossier des hélicoptères en 2020. Des hélicoptères payés à coups de dizaines de milliards qui, en fait, n'avaient rien d'hélicoptère de combat. Et c'est pas tout.
Que de 2016 à 2021, ces forces de sécurité intérieure ont été toujours retenues dans le top 5 des services les plus corrompus. Le dossier Inatan, Gaskindé, tous ces multiples dossiers où il y a en dessous des affaires de sous, on ne peut pas douter qu'aujourd'hui, et il y en a qui vivent du terrorisme. Le terrorisme est devenu un fonds de commerce pour certains citoyens burkinabés, aussi bien des civils que des militaires. Et nous avons été d'ailleurs intéressés lorsque le chef de l'État a évoqué le fait qu'il y a et des officiers qui sont devenus des milliardaires. Et malheureusement, ce dossier n'est pas encore enrôlé.
Et cette question des officiers milliardaires va ressortir lors du dernier entretien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
Ce que je souhaite, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et des civils, vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, demandez-leur quelle est la situation. Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non.
Lutter contre le terrorisme en combattant la corruption s'avère une tâche ardue. Une situation dont les Ouagalais comme Amadou Diallo sont bien conscients.
Qui parle de corruption, il parle de laxisme. Et qui parle de laxisme, parle de favoritisme et tout ce qui va avec. Et quand nous voyons aujourd'hui avec nos frontières poreuses, et aussi des agents qui ne font pas réellement leur travail, ça facilite aisément le trafic. Et qui parle de trafic, il y a du stupéfiant, des armes, des munitions et autres. Donc, quand on parle aussi plus de corruption, c'est moyennant quelque chose. Et quand on vous donne quelque chose, vous ne faites pas rigoureusement votre travail. Et cela aussi a un impact très réel sur le Burkina Faso et surtout la lutte contre le terrorisme. Et c'est vraiment très dangereux.
Le RENLAC appelle à des actions concrètes et demande que la lumière soit faite sur les dossiers emblématiques. L'organisation de la société civile souhaite aussi une opération d'envergure de lutte contre la corruption dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Gilda Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et nous sommes en ligne avec Gilda Da pour continuer la discussion sur ce sujet. Gilda, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Comment la population burkinabé perçoit-elle le lien entre la corruption et le terrorisme chez vous?
Oui, Eric, pour percevoir d'abord ce que la population pense de cela, il faut prendre en compte déjà les enquêtes du RENLAC. Alors, selon ces enquêtes-là, la corruption a gagné 30 points entre 2020 et 2021, si je ne m'abuse. Ça veut dire déjà beaucoup de choses. De plus, Eric, les personnes que nous avons nous-mêmes interviewées, y compris celles qui n'ont pas voulu parler face caméra, pensent que le terrorisme monte en puissance parce que la corruption prospère. Donc l'un dans l'autre, Eric, sans avoir bien sûr mené une étude représentative, je peux déjà vous dire que pour le commun des Burkinabés, il y a un lien entre corruption et terrorisme, que ce soit pour fournir du carburant, pour fournir des vivres au terrorisme, ou bien pour donner la position des FDS. Les Burkinabés en général pensent que il a fallu que la corruption prospère pour que les terroristes ou le terrorisme puisse vraiment prospérer sur le terrain.
Gildas, quels sont les défis auxquels les autorités burkinabées sont confrontées dans leurs efforts contre la corruption au sein de l'administration et quel impact cela a-t-il sur la lutte contre le terrorisme très rapidement?
Je dirais le défi principal c'est l'omerta, c'est le silence face à la situation. C'est là par peur ou bien par complicité. Donc j'aimerais vous prendre un exemple si vous me permettez. C'est celui d'un ancien ministre de la Défense qui avait construit un domicile gigantesque de type américain, estimé à des centaines de millions de francs CFA selon les experts. Donc le ministre en question est malheureusement décédé avant le jugement définitif. Et dans ce cas, il a fallu que des journalistes et des activistes mettent l'affaire sur la place publique en fait, avec des photos à l'appui. Et vous savez, au Burkina, on a une loi qu'on appelle le délit d'apparence. Donc, si vous touchez 100 000 francs CFA par mois et que vous construisez une villa qui coûte 1 milliard, ben vous devez aller l'expliquer devant la justice. Donc, tout cela mis l'un dans l'autre en termes d'impact, sans être à la place des juges, bien sûr, puisque l'affaire n'a malheureusement pu être jugée jusqu'au bout, je dirais que les détournements jouent beaucoup sur les forces de défense et de sécurité burkinabé. Donc, on vole ce qui est destiné à leur équipement, on vole ce qui est destiné à leur armement et même leur paiement, parce qu'on a eu des cas de VDP qui ne recevaient pas leur paiement à un moment donné. Donc, tout cela peut jouer sur la motivation de ces combattants sur le terrain et ça va forcément se ressentir, Eric.
Gildas, une mesure concrète que le RENLAC propose pour combattre la corruption et renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. En quelques secondes.
Je vais peut-être vous prendre deux ou trois mesures. Le RENLAC déjà parle d'exemplarité à la tête de l'État. Ça veut dire que le président lui-même doit être le premier exemple de probité pour lutter contre la corruption. Hormis le président, on doit avoir le premier ministre et d'autres ministres, comme le ministre de la Sécurité, celui de la Défense, ils doivent être déjà des exemples. Donc, Et le Renlac dit aussi qu'il faut lancer une croisade ou une fatwa contre la corruption. C'est selon, il faut lancer cela pour permettre d'extirper les corrompus de l'administration et surtout de permettre que la lutte contre le terrorisme avance. Donc, lorsque on prend un corrompu, c'est ce que le Renlac demande aussi, il doit être condamné, mais aussi la somme qui a été volée ou la somme qu'il a reçue doit être totalement récupérée, en plus des dommages. Et ça même, en fait, ça est dans la loi burkinabé, mais malheureusement, ce n'est pas appliqué. Vous avez des corrompus qui vont en prison, qui ressortent et qui jouissent des milliards qu'ils avaient détournés.
Merci, Zedas. C'est ce qu'on appelle l'action récursoire en termes judiciaires. Et il faut aussi l'indépendance de la justice. Merci, Zedas. Nous approfondissons donc la discussion avec Guillaume Sotomayor, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il est chercheur, analyste sur les questions politico-sécuritaires. Il est à Dakar, au Sénégal. Bonsoir, Sotomayor.
Bonjour.
Quel est le lien entre la corruption et le financement des groupes armés terroristes au Sahel?
Merci beaucoup d'abord de me recevoir. La corruption est un facteur facilitant les opérations de ces groupes terroristes. C'est un facteur qui va faciliter leur mouvement, leur repérage, par exemple, avant une attaque. La conception même de certaines opérations. La corruption, c'est également un élément qui va faciliter la montée en puissance opérationnelle des groupes armés terroristes, par exemple via l'achat de matériel de communication, des véhicules, des armes. Il y a eu plusieurs arrestations, par exemple au Niger, d'officiers ayant vendu des armes à des groupes armés terroristes, où on peut penser également au cas de la garnison armée de Gao en 2012, qui était accusée de faits similaires. Il y a des liens de financement plus indirects, car la corruption facilite bien sûr les activités, les commerces, les trafics licites et illicites que peuvent taxer les groupes armés terroristes et qui renforcent leur assise financière. Et enfin, la corruption est un élément essentiel pour faciliter le recrutement des groupes armés djihadistes, puisque cela délégitime l'État et la puissance publique dans des territoires dans lesquels l'action régalienne est déjà très limitée.
Et quelles sont les implications de cette corruption sur l'efficacité des forces de sécurité locales?
Elles sont nombreuses. Premièrement, cela affaiblit leur capacité matérielle, puisque la corruption va entraîner un affaiblissement de la qualité des matériels disponibles, un affaiblissement également des moyens en termes de renseignement ou dans le fonctionnement même des troupes. C'est-à-dire que c'est un facteur démotivant de la troupe. Cela va entraîner un non-versement de salaire ou des primes. Cela va entraîner également des problématiques autour des avancements ou des carrières qui ne vont pas être gérées selon des critères vertueux. Cela détruit en réalité donc l'éthique de la fonction publique et sa vertuosité, et donc sa crédibilité au sein des forces armées et de sécurité, mais aussi auprès des citoyens. Cela va donc entraîner une perte de confiance, une rupture de ce lien essentiel qu'est la confiance. Cela va impacter bien sûr la faiblesse du renseignement humain disponible pour les forces de sécurité et de défense, et les pratiques prédatrices d'agents publics vont retourner les populations contre ces derniers, les pousser dans les bras des groupes armés terroristes.
Les efforts de lutte contre la corruption pourraient donc renforcer la capacité des gouvernements à lutter contre le terrorisme au Burkina Faso et dans d'autres pays sahéliens. Sotomayor, quelles sont les recommandations ou mesures préventives proposeriez-vous pour réduire cette corruption et renforcer cette lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel?
Et c'est un élément essentiel, parce que c'est l'élément clé pour améliorer, comme vous l'avez dit, le fonctionnement de tout l'appareil de sécurité, de toute la chaîne pénale, de redorer l'image de l'État et de poser par cela les jalons d'un long effort indispensable pour regagner le cœur des populations, pour redevenir une offre, un modèle de gouvernement légitime. Ce que sont devenus, à contrario, les groupes armés terroristes, notamment en raison de l'efficacité perçue de leur justice islamique. Il faut donc de l'indépendance, des ressources humaines, des ressources financières, mise à disposition d'autorités de lutte contre la corruption, des peines également à la hauteur des enjeux. Il ne faut plus de deux poids, deux mesures face à la règle. Il faut une vraie volonté politique en ce sens. Il faut une justice plus grande sur tous ces aspects, et notamment via une présence vertueuse de l'État, positive aux yeux des communautés, et que cette dimension soit mise en priorité dans la lutte antiterroriste. C'est absolument essentiel pour son succès futur.
Guillaume Sotomayor, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et centrale, chercheur analyste sur les questions politico-sécuritaire. Vous êtes à Dakar au Sénégal. Merci beaucoup pour votre analyse, pour votre perspective.
Merci à vous. Bonne soirée.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Tchad, l'OMS s'inquiète de la situation sanitaire des réfugiés soudanais et des Tchadiens rapatriés qui sont dispersés dans 4 provinces de l'est du pays. Dans de nombreux sites de transit, ces réfugiés et rapatriés vivent dans des conditions de promiscuité propices à la propagation de maladies. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Ces réfugiés font une pression énorme sur le système de santé, lequel système de santé, comme dans beaucoup de pays africains, est déjà très faible.
Jean Bosco Ndioukou Bayo, représentant de l'OMS au Tchad.
Il faut plus de personnel pour soigner tous ces réfugiés-là, il faut plus de médicaments, il faut plus d'infrastructures. Avec cette pression des réfugiés, mais aussi avec les populations autres qu'il ne faut jamais oublier, nous avons à peu près 2 millions de personnes qui sont dans le besoin de soins de santé de base. C'est énorme. Nous avons dans cette crise à peu près 3125 blessés de guerre au dernier chiffre. Et ces blessés de guerre sont soignés dans des cliniques mobiles à Adrès. Et ce qu'on ne peut pas soigner à Adrès, on envoie à Béché où nous avons une équipe de chirurgiens qui travaillent avec les chirurgiens nationaux pour opérer sur les cas qui sont référés à Adrès où on ne peut pas bien sûr les soigner.
Pour les autorités sanitaires, cette situation inédite et inattendue, marquée par une déferlante humaine dans l'est du Tchad, a causé assez de difficultés au personnel soignant.
En réalité, l'hôpital de district était beaucoup plus préparé pour prendre en charge une population d'environ 100 à 150 000 habitants. La population a été multipliée pratiquement par 4.
Dabsou Guédaoussou, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Pour lui, le gouvernement tchadien a mis à la disposition des districts concernés des ressources humaines et des médicaments pour appuyer l'équipe afin de soulager les réfugiés et populations autochtones.
En tout, 1359 agents toutes catégories confondues sont en train d'être recrutés qu'on va déployer dans les jours à venir dans ces provinces-là pour pouvoir soulager un peu les souffrances du personnel qui est sur place.
Cette situation a occasionné plusieurs cas de malnutrition dans l'est du Tchad. Sur les 8 districts des 4 provinces touchées, plus de 68 000 cas de malnutrition aiguë modérée et plus de 36 000 cas de malnutrition aiguë sévère ont été recensés. Pour le représentant de l'OMS au Tchad, Jean Bosco Ndioukou Bayo, un enfant atteint par la malnutrition est très vulnérable.
Un enfant qui ne mange pas bien est immunodéprimé systématiquement. Et quand on est immunodéprimé, évidemment, les autres maladies en profitent. Les maladies opportunistes, vous devenez beaucoup plus vulnérable au paludisme, aux diarrhées, aux infections respiratoires aiguës et vous devenez par-dessus tout très vulnérable à la rougeole.
Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guédaoussou, donne la statistique des cas de décès liés à la malnutrition.
On déplore malheureusement 157 décès. Parmi ces décès, il y a 113 enfants qui sont décédés des suites de malnutrition qui devient la première cause de mortalité chez les enfants. On déplore également le décès de 27 femmes, soit liées à des complications de grossesse ou pendant l'accouchement, ou encore les complications liées aux suites d'accouchement.
Des séances de dépistage pour les enfants de moins de 5 ans ont été organisées pour identifier les enfants malnutris et des intrants ont été déjà prépositionnés dans les différents sites pour une prise en charge adéquate. André Kodumadingar, Jamena, pour VOA Afrique.
Le régime de transition au Burkina Faso a rendu hommage dimanche à Ouagadougou à l'ancien président Thomas Sankara.
Assassiné lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987, la cérémonie a eu lieu devant la grande statue de Thomas Sankara, érigée dans la capitale burkinabé en 2019, à l'endroit où l'ex-président a été assassiné et inhumé en février. C'est notre fait marquant de la semaine. Ismaël Diallo, ancien député et un camarade de Thomas Sankara, est avec nous. Monsieur Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ressentez-vous l'hommage rendu à Thomas Sankara et quelle est son importance?
C'est un hommage qui devait arriver depuis longtemps, mais c'est bien qu'il arrive maintenant. Sankara est reconnu, célébré, salué dans plusieurs endroits à travers le monde. Et le Burkina était un peu à la traîne. Mais nous le faisons aujourd'hui et nous lui restituons la place qu'il mérite.
À la lumière de cette cérémonie d'hommage, quelles sont vos réflexions sur l'avenir politique au Burkina Faso, du Burkina Faso, et les efforts nécessaires pour promouvoir la justice sociale et la stabilité dans votre pays?
Il est loin entre l'idéal sankariste, ce que Sankara voulait faire, et la réalité de ce que nous vivons. Beaucoup de Burkinabés n'ont pas encore compris que le changement du nom de Haute-Volta à Burkina Faso n'était pas un effet de mode. Et le fait de vouloir aller de l'avant, et comme disait Sankara lui-même, oser inventer l'avenir, ce n'est peut-être pas lui qui a découvert cette expression, mais en tout cas pour les Burkinabés, c'est lui. Je crois qu'on n'a pas encore compris. Beaucoup se veulent sankaristes, mais n'ont pas compris et ne sont pas prêts à vivre l'idéal sankariste. Mais bon, il faudrait qu'ils comprennent et il faudrait qu'on le vive réellement, pas seulement dans les slogans.
Comment voyez-vous le rôle de la jeunesse burkinabé dans la poursuite des idéaux de Thomas Sankara à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption et les défis sociaux économiques? On a vu tout à l'heure qu'il y a un lien entre la corruption et le terrorisme au Burkina Faso.
Oui, absolument. Le terrorisme se nourrit de la corruption et la corruption est un vecteur important du terrorisme. Et Sankara, beaucoup ne comprennent toujours pas, franchement, la passion que Sankara avait d'amener le peuple dans son entièreté, pas une faction du peuple, mais le peuple dans son entièreté à une vie meilleure, à de meilleures chances pour tous et à une égalité homme-femme, à la promotion de tout le monde. Ce qu'il faudrait que nous fassions. Et nous n'y sommes pas encore. Et vous m'entendez?
Oui, je vous entends, oui.
D'accord. Nous n'y sommes pas encore. Mais il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, que nous revenions à expliquer à la jeunesse qui était Sankara véritablement, ce qu'il voulait et ce que nous devons faire. Il y a une phrase de Frantz Fanon qui s'applique très bien aujourd'hui, et je la cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Sankara non seulement a découvert sa mission, mais il a affronté cette mission jusqu'au sacrifice suprême. Et Sankara, je crois, était un des rares chefs d'État, je ne dirais pas au monde, mais disons en Afrique en tout cas, qui s'est retrouvé qui ne s'est pas fait un franc de plus du premier jour à la quatrième année du pouvoir. Alors, il nous faut remplir l'idéal sankariste. Mais ce n'est pas seulement dans les mots qu'il faut le faire, c'est dans le comportement de tous les jours. Et du temps de Sankara, personne n'osait même tenter de corrompre un autre. Et personne n'osait se laisser corrompre. Aujourd'hui, c'est devenu une pandémie. Et on attend toujours de voir un véritable combat contre la corruption.
Alors, le changement de nom du boulevard Charles de Gaulle en boulevard Thomas Sankara a été salué par de nombreux Burkinabés. Comment percevez-vous ce changement et son impact sur la mémoire
de Sankara, qui lui-même avait inauguré le boulevard Charles de Gaulle.
Well, chacun ses héros, ses martyrs. De Gaulle est certainement une icône pour la France et les Français. Sankara l'est pour les Burkinabés, pour les Africains et au-delà. Sankara était, oui, chef d'État, mais c'est le numéro 3 du régime, le commandant Jean-Baptiste Boukhari Lengani, qui a inauguré le boulevard Charles de Gaulle en présence du ministre français de la Coopération. Ceci dit, en ce moment-là, ce qui nous importait, c'était avoir ce boulevard digne de ce nom. Et puis, bon, l'avenir nous dira la suite. L'avenir nous dit la suite, 38 ans après.
Merci, monsieur Ismaël Diallo, pour cette rectification, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'est Sankara qui avait inauguré le boulevard Charles de Gaulle. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous à Ouagadougou. Direction Bandiagara, sur le plateau d'Ogon, dans le centre du Mali. La case à Palabre, également connue sous le nom de Toguna, y constitue un élément essentiel de la culture d'Ogon. Les sages du village se réunissent dans ce lieu pour discuter des affaires communes. Cet édifice sert également de palais de justice coutumière. Cette tradition des Dogon est un pilier de leur société. Un espace où les décisions importantes sont prises. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Salutations matinales avant de se retrouver sous les grands hangars érigés au centre du village. Nous sommes au village de Gégourou, dans le cercle de Koro. Yakuba Togo, un sage du village, nous accueille sous les grands Toguna.
Le Toguna est un héritage culturel de nos ancêtres. C'est un lieu public où se réunissent les sages du village. Il est l'exemple de la cohésion sociale chez les Dogons.
Cette identité culturelle Dogon repose souvent, mais pas toujours, sur les 8 piliers de bois, un nombre qui rappelle celui des premiers ancêtres Dogon. Les Toguna jouent plusieurs rôles dans les villages Dogon, comme nous explique Siabou Nyangali, acteur culturel à Koro.
Les lieux de recueillement et la place, n'est-ce pas, où la vérité se dit. Généralement, il n'y a pas de femmes dans le Toguna. Même quand il y a un jugement à faire, c'est au Toguna que ça se fait, et les femmes sont tenues à l'écart. Les patriarches ont jugé que l'affaire de l'homme, c'est l'homme qui doit traiter cela.
En plus d'être un palais de justice, le Toguna est aussi un symbole d'hospitalité des Dogons.
Quand un étranger vient dans le village, il peut se reposer sur le Toguna. On lui offre de la nourriture et de l'eau pour lui témoigner de l'hospitalité du village.
Dans chaque village Dogon, le renouvellement d'un Toguna se fait selon des critères. Nous sommes ici dans le village de Yoribou pour le renouvellement du Grand Toguna. Une grande fête est organisée pour la circonstance.
Notre Grand Toguna est renouvelé tous les 7 ans. C'est une tradition ancestrale et tout le monde participe.
Les femmes sont aussi au rendez-vous pour la cérémonie.
Merci à Tidiani Ouedraogo pour ce beau reportage. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nachwan Kale à la console, nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt.